c'est sa seconde nature. Axel Kahn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien, chercheur, président de l'université Paris-Descartes. Et dans votre livre qui vient de sortir, Un type bien ne fait pas ça, aux éditions Nil, vous revenez sur votre vie afin d'expliquer votre vision de l'éthique. Votre livre, enfin, ce qui ressort vraiment à la lecture de votre livre, dans votre cheminement de vie, c'est vraiment la personne que vous défendez. On va prendre pour ça l'exemple, par exemple, de l'embryon, parce que c'est une démarche intéressante que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est qu'à la fois, vous défendez l'embryon en tant que personne, et en même temps, vous êtes un grand militant de l'IVG. Et on a du mal à concevoir ça. Effectivement, c'est le fait que c'est la personne avant tout qui est importante.
Alors, quand on est en faveur de la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, et moi j'ai connu la période avant la loi Veil, avant la loi du 17 janvier 75 et après. En plus, j'ai fait de la réanimation où on recevait des femmes qui, ayant tenté d'avorter, ayant avorté par pose de sonde dans la clandestinité, trop souvent avaient des infections graves, trop souvent gravissimes, avec parfois un blocage des reins, une anurie, comme on dit dans notre jargon, et parfois, j'en ai vu une dizaine dans ce cas-là, mouraient. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans ces cas-là, le problème n'était pas du tout de savoir si la femme allait mettre au monde un enfant ou allait avorter. La seule question était, elle ne pouvait pas imaginer garder cet enfant. Allait-elle avorter en mettant sa vie en danger ou sans mettre sa vie en danger? Et dès lors que vous posez la question de la manière dont elle se pose, la réponse est évidente. Naturellement, le mieux, ça serait de sauver la mère et l'enfant. Mais puisqu'on ne peut pas, sauvons au moins la mère. Et si bien que, si vous posez vraiment le problème, des gens qui sont en cause, très souvent, pas toujours, des fois c'est plus compliqué que cela, mais très souvent, la réponse émerge presque d'elle-même.
Alors, les portes de l'Académie des sciences ne sont pas grandes ouvertes devant vous, hein, on peut dire. Et alors pour vous, c'est parce que vous êtes très opposé au clonage humain, et notamment, on n'arrête pas de dire que le clonage, enfin, on n'arrête pas, pas mal de scientifiques disent que le clonage humain va permettre d'ouvrir des perspectives, des traitements de tout un tas de maladies. C'est pas, ça ne vous paraît pas si évident que ça?
Honnêtement, je ne suis pas du tout frustré de n'être pas académicien. Je suis membre correspondant de l'Académie depuis très 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 longtemps, et de fait, normalement, j'aurais dû être membre à part entière de l'Académie. Mais j'ai joué les mauvais garçons avec mes collègues académiciens. C'est-à-dire que moi, le clonage thérapeutique, depuis très longtemps, je disais, l'idée est bonne, mais c'est une illusion, c'est une mystification. Parce que c'est tellement compliqué que, honnêtement, ça n'est pas, ça ne sera jamais une méthode thérapeutique.
Vous vous rappelez ce que c'est? Pour les
tout à fait. Alors, la méthode, quand Dolly est né parce qu'on a pris des ovules, on a remplacé le noyau des ovules par des noyaux d'une brebis qui avait été tuée 6 ans auparavant et qui était en culture, et ainsi est né des sœurs jumelles de la brebis morte depuis 6 ans.
Sans intervention du mâle.
Sans intervention du mâle. Et quand on a vu ça, une idée a émergé, elle était bonne, qui consiste à dire, voilà, le professeur Kahn, on voit très bien, il n'est plus tout jeune, il va bientôt avoir une maladie d'Alzheimer, alors ça c'est terrible, il va perdre son bel allant, il faut lui faire des greffes de cellules de cholinergiques, de neurones, qui vont lui permettre de retrouver la mémoire. Mais si on lui fait des greffes de cellules que l'on prélève ici ou là, sans doute il va les rejeter car ce ne seront pas ses propres tissus. Rejet de greffe. Et donc le mieux, ce serait de greffer dans le cerveau du professeur Kahn des cellules de son frère jumeau. Mais je n'ai pas de frère jumeau. Et si j'avais un frère jumeau, il ne serait pas prêt à me donner ses neurones. Alors l'idée, on va faire un clone embryonnaire du professeur Kahn. Ce clone embryonnaire aura les mêmes gènes que lui et par conséquent, une greffe viendra. Et ce qui ne marchait pas très rapidement, c'est que la méthode, elle n'est pas maîtrisée bien, et si jamais on y arrivait un jour chez l'homme, un jour on y arrivera, il faudrait sans doute 10, 20, 30 femmes, des centaines d'ovules prélevés chez les femmes, pour peut-être espérer un succès. Et l'on voit très bien que si par malade à traiter, il faut manipuler 100 à 200 ovules, il faut essayer de prélever des ovules sur 10, 20 femmes en âge de procréer. On ne va pas en soigner beaucoup. Donc il y a un aspect illusoire. Mais les docteurs et les scientifiques avaient très envie qu'on leur permette de tâter à la technique. parce que c'est normal, un chercheur n'aime pas qu'on lui interdise de faire quelque chose. Et au lieu de vanter en quelque sorte l'intérêt scientifique de leur méthode, ils ont dit, si vous nous interdisez de faire cela, alors les maladies de l'Alzheimer ne retrouveront pas la mémoire, les cardiaques continueront à perdre le souffle, etc. etc. Et ça, j'ai trouvé que ce n'était pas possible.
Pour revenir sur un autre grand débat qu'est l'euthanasie, votre position qui est de penser que déjà l'euthanasie ça n'est pas la mort digne et que la demande de l'euthanasie ça n'est pas un acte de liberté vient aussi de votre histoire, de votre cheminement.
Oui, c'est vrai. J'ai été très confronté à la question à deux titres. Tout d'abord, mon père, je l'ai dit, s'est suicidé quand j'avais 26 ans, il en avait mis 54. Et je me suis toujours dit. Il avait 56. Si jamais mon père, au moment où il a pris ce train, donc il s'est jeté, avant de monter dans le train sur les marches de la gare Saint-Lazare, m'avait croisé, moi ou bien un de ses proches, s'il lui avait fait part de son désir de se tuer, si on avait pu lui faire valoir qu'il y avait d'autres solutions à ce drame qui l'habitait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Au moment où mon père s'est jeté d'un train, il n'imaginait pas qu'il y avait une autre voie. Et donc je dis que l'ultime liberté de se tuer ou de demander la mort a la caractéristique de n'être pas une liberté. Parce que la liberté, c'est le choix. Quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Et j'en conclus que quand quelqu'un demande à mourir, il demande quelque chose, il dit quelque chose de très grave. Il dit « la vie m'est insupportable ». La première réponse à lui apporter n'est sans doute pas de lui apporter la mort qu'il réclame, mais de voir si on ne peut pas rendre sa vie supportable. Si on ne peut pas lui donner une raison d'espérer de vouloir vivre une semaine, un mois, trois mois, un an, deux ans de plus. C'est-à-dire, si on ne peut pas faire en sorte que la vie à venir soit non seulement supportable, mais puisse lui apporter des satisfactions. La vraie solidarité envers la personne me semble dans cette voie-là, plutôt que dans l'euthanasie bien vite administrée.
Pas pour une révision de la loi, mais pour des actes individuels décidés.
Voilà, je pense que parce que je reconnais très bien qu'il y a des cas où l'euthanasie demandée, l'euthanasie administrée, correspond à un geste de solidarité. Donc j'appelle de mes voeux que la société soit extrêmement compréhensive et tolérante pour ces gens-là. En revanche, je ne demande pas que, en décrivant les tâches du médecin, le médecin donne la vie et améliore la vie malade en soignant les malades, soulage, qu'on y rajoute une mission qui est d'abréger la vie. Je ne demande pas qu'on rajoute des exceptions à l'interdiction de tuer dans le code pénal. Voilà.
Axel Kahn, votre livre, c'est une réflexion autour de l'éthique à travers votre itinéraire personnel. Et pour la première fois, vous parlez de ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune garçon, puisque vous avez été victime de pédophilie. Vous avez, je cite, subi les gestes déplacés d'un abbé et d'un chef scout. On est en pleine actualité, vous le savez.
Je ne le savais pas quand j'ai écrit ce livre. Hein.
Et votre réflexion par rapport à tout ça, par rapport à cette pédophilie, par rapport à ces...
D'abord, elle était extrêmement fréquente. D'ailleurs, l'actualité l'a montré. Je ne suis pas sûr qu'elle soit plus fréquente dans l'Église catholique qu'ailleurs. Mais le problème de la pédophilie est fréquent. Et lorsque vous vous trouvez dans des mouvements de jeunes, lorsqu'il y a des jeunes adultes avec des jeunes garçons ou des jeunes filles en l'occurrence, lorsque vous êtes face à des ecclésiastiques qui travaillent au contact des jeunes, bien évidemment, le risque est beaucoup plus considérable. Personnellement, de tout ce qui m'a marqué, c'est sans doute pas ce qui m'a laissé l'empreinte la plus épouvantable, je dois dire. Il n'empêche que je ne comprenais pas, et ce dont j'ai pu témoigner, c'est qu'à l'époque, tout le monde savait que ça se passait. Je l'ai dit à ma mère, par exemple. Ma mère m'a demandé de m'éloigner de ces gens-là, certainement, mais il ne lui serait pas venu à l'idée d'aller à la justice.
Vous leur voulez aujourd'hui? Vous aimeriez, parce qu'ils n'ont pas été condamnés, mais
ils n'ont même pas été accusés, je veux dire.
Hein.
Voilà. Naturellement, je leur en veux. Je veux dire que la sexualité, on la comprend tous. La sexualité face à quelqu'un qui ne peut que la subir, à qui elle est imposée, sans qu'ils n'en comprennent rien, c'est impossible à admettre. Profondément, c'est impossible à admettre. Et donc, je leur en veux en ce sens. D'un autre côté, je dois dire que ce qui m'étonne le plus, c'est l'extraordinaire tolérance et accoutumance du temps à ces actes qui étaient d'une extraordinaire fréquence.
Sur le passé, mais sur le futur, quand vous serez ministre de la Recherche, votre action politique, ça sera quoi?
Un vrai ministre de la Recherche et l'enseignement supérieur, puisque les deux sont liés, je vous rappelle, je suis président d'université, la recherche et la science ce n'est pas tout l'avenir, il n'y a pas d'avenir sans recherche et sans science. Et par conséquent, j'essaierai de contribuer à dessiner ce qui m'émeut beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire dans ce monde qui est un monde matérialiste, qui est tout à fait confronté à la dureté, à l'incertitude de l'avenir, à la crise présente, à la difficulté simplement de continuer à faire ce que l'on faisait dans le passé. Je crois que cet ensemble, enseignement supérieur, recherche, préparation de l'avenir, c'est un peu le cristal qui permettra à tout d'être régénéré. C'est-à-dire que maintenir un système d'enseignement supérieur et de recherche qui contribue à préparer l'avenir est fondamental pour un pays. Et comme j'ai un peu d'expérience à ce qu'il convient de faire pour y parvenir, je pense que c'est le sens dans lequel j'agirai.
La seule déception que j'ai eue en lisant votre livre, c'est que je ne serai jamais votre ami, puisque vous écrivez « Je recherche l'amitié féminine sans arrêt. En revanche, j'éprouve le plus grand mal à avoir des hommes pour amis. » Voilà.
Je suis très désolé, mais je suis très amie de Marina.
Merci beaucoup à cette date. Je ne peux que recommander la lecture de votre livre, qui est extrêmement riche, qui rend intelligent. C'est l'un des clés de réflexion. « Un tibien ne fait pas ça » paru chez Nil. Merci infiniment.
Merci.